Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesselings au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la cité antique de Petra. Petra, cité mythique taillée dans la roche rouge, est bien plus qu'une simple merveille architecturale. Elle est le vestige vibrant de l'ancienne civilisation nabatéenne, une civilisation qui prospéra au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, en gros de la fin du 4e siècle jusqu'à 106 de notre ère. Elle prospéra sur un vaste territoire, un territoire qui s'étendait entre autres du sud de la Syrie à la Jordanie bien sûr et au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Laurent Tolbeck est archéologue, il est spécialiste de cette civilisation, il y mène souvent des missions sur le terrain explorant les vestiges des sanctuaires nabatéens, des sanctuaires qui sont perchés au sommet des montagnes de Petra. Il étudie plus précisément les espaces religieux et les rituels entourant les bétiles. On va en parler au cours de cette émission. Les bétiles, ce sont des pierres dressées, généralement non sculptées et à fonction symbolique ou sacrée. Alors, notre invité, je vous l'ai dit, c'est Laurent Tolbeck. Il est archéologue spécialisé dans cette civilisation nabatéenne. Il a rejoint l'Université libre de Bruxelles en 2007, apportant avec lui une longue expérience de terrain acquise à Petra, ce site qui est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y travaille depuis 2002. Sa thèse de doctorat portait sur les sanctuaires des nabatéens. Et depuis 2012, il est également directeur de la mission archéologique française à Petra. Il a dirigé plusieurs missions archéologiques sur différents espaces religieux de Petra et il a récemment d'ailleurs participé à une mission belgo-suisse dans cette cité des Nabatéens. On en parle de tous ces différents éléments en compagnie de Laurent Tolbeck dans un tout petit instant, plongé donc au cœur de Petra. On s'intéresse aujourd'hui au sanctuaire de Petra en compagnie de Laurent Tolbeck. Bonjour Laurent Tolbeck.
Bonjour.
Vous êtes membre du CREA Patrimoine, c'est le centre de recherche en archéologie et patrimoine de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes archéologue spécialisé dans la civilisation nabatéenne. Vous êtes à l'ULB depuis 2007, hein. Vous avez une longue expérience de terrain acquise à Petra. Petra, je rappelle que c'est site inscrit au patrimoine universel de l'humanité, au patrimoine mondial, vous préciserez peut-être ultérieurement, finalement c'est la même chose, de l'UNESCO, quoi qu'il en soit. Et vous y travaillez depuis 2002, votre thèse de doctorat portait d'ailleurs sur les nabatéens et sur les sanctuaires dont on va parler aujourd'hui. Et puis depuis quelques années, vous êtes également directeur d'une mission archéologique française sur le site de Petra. Petra, ça résonne à l'oreille de beaucoup, j'imagine. Tous ceux qui sont des grands voyageurs et qui ont été faire un petit tour du côté de la Jordanie n'ont pu s'empêcher de passer et de fouler les chemins qui mènent à Petra. Et il faut du courage, hein, il fait chaud, c'est sinueux, mais c'est magnifique. Cité mythique taillée dans la roche rouge. Alors, c'est quoi cette cité de Petra? C'était vraiment le cœur, la capitale de la civilisation nabatéenne?
Oui, absolument. Donc, c'est une ville qui est située dans les montagnes. On est dans le sud de la Jordanie actuelle. Et c'est le cœur d'une civilisation qui rayonnait sur le nord-ouest de la péninsule arabique, jusque le sud de la Syrie, le Negev, le Sinaï. Donc voilà, c'est le cœur du pouvoir. On est à ce qu'on appelle la fin de l'époque hellénistique. Donc, disons, les premières mentions du Nabatéen, c'est la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une civilisation qui va être intégrée à l'Empire romain en 106 de notre ère, donc au début du 2e siècle. Donc voilà, on a plusieurs siècles là d'existence et donc d'auto-représentation de ce pouvoir royal dans ce site de Petra. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'aller à Petra? Parce que, curieusement, il y avait de l'eau. C'était un site qui était assez abondamment pourvu en eau douce, diverses sources, et puis ils récupéraient tout ce qu'il y avait comme eau de pluie possible, imaginable. C'est pas un site qui est situé dans une zone de grosse pluviosité, loin de là.
Oui, c'est plutôt une région aride, a priori, surtout aujourd'hui.
Tout à fait. Mais avec les sources plus la récupération très précise de la moindre goutte d'eau, eh bien l'eau était suffisamment abondante que pour que le site soit décrit comme très vert, très verdoyant par un visiteur du tournant de l'air, en fait.
Quelle oasis ?
C'est une espèce d'oasis, okay. Ouais.
Très bien. Alors, combien de personnes ont vécu dans cette cité des Nabatéens, à savoir Petra ?
Alors, c'est très difficile à évaluer, hein, la population d'une ville de l'Antiquité. Souvent, on utilise la capacité d'un théâtre, par exemple, pour essayer de le déterminer, mais c'est pas correct. Donc, alors, on évalue à 15-20 000 personnes le nombre d'habitants permanents. Mais il faut se dire que c'est surtout une ville caravanière, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait la richesse de cet état ?
Un carrefour sur
alors c'est entre deux mondes, entre le monde méditerranéen, bien sûr, et puis, à l'autre extrémité, l'Eurasie, c'est-à-dire c'est l'océan Indien et la péninsule arabique. Donc, ce sont tous les biens qui sont produits ou importés, réexportés sur des points nodaux maritimes, entre autres au sud du Yémen et sur la côte occidentale de l'Inde, qui se retrouvent sur des pistes caravanières et qui ensuite sont transportés jusqu'en Méditerranée, en fait jusqu'à Gaza. Et puis de Gaza, c'est réexporté par d'autres réseaux, des réseaux phéniciens, si vous voulez, actuellement au Liban, vers la Méditerranée, vers les grands centres consommateurs. Donc un des biens, mais il y en a bien d'autres, qui est transporté, le plus connu, c'est l'encens, évidemment, qui est utilisé en très très grande quantité en Occident. Donc voilà, ce sont des biens à forte plus-value, c'est-à-dire que le bénéfice, l'investissement est important, mais le bénéfice l'est encore plus, quoi. Donc les Nabatéens passent pour être effectivement richissimes, en quelque sorte. Et donc voilà, ce qu'on essaye d'étudier, c'est l'expression artistique de cette richesse, cette culture, en fait, où est-ce qu'elle se situe, quoi.
Voilà, et 2000 ans plus tard, force de touristes continuent, ou d'autres archéologues par exemple, ou d'autres personnes intéressées par le sujet, continuent de fouler ces pierres rocailleuses à la découverte de ces monuments extraordinaires. Qu'est-ce qui explique encore cette fascination réelle pour, en tout cas, l'architecture du lieu de Petra et derrière la civilisation nabatéenne ?
Mais ce qui est très étonnant... Ce qui est très étonnant, c'est le fait qu'ils ont sculpté des façades dans la roche. Mmh. Donc, des élévations complètes de bâtiments sont conservées. Alors, généralement, vous allez voir un site, tout est en ruine, sauf ce qui a été reconstruit. Et en particulier, les parties hautes, elles sont très incertaines pour la restitution des parties les plus élevées. Du côté des charpentes, on ne sait jamais. Et là, vous avez toute l'élévation, mais pour un type particulier de structure, c'est des structures funéraires. C'est-à-dire qu'on a des façades de tombeaux qui sont sculptées dans la roche.
Qui ressemblent à des temples.
Ça peut vous faire penser à des temples, effectivement. Les modèles, certains de ces... Alors, il y a toutes sortes de catégories sociales, et donc il y a toutes sortes de coûts possibles, et donc de modèles différents. Et donc, ça va de la façade de tombe, mais vraiment la plus simple, avec une petite entrée et un petit loculus à l'intérieur, donc un espace dans lequel on va placer le corps ou les corps de toute la famille, tous les membres de la famille, jusqu'à un mausolée royal très exceptionnel, avec des modèles qui sont certainement... les plus prestigieux de l'époque, à savoir des modèles alexandrins. Donc, ce qui est extraordinaire à Petra, c'est que vous avez, pour certains des monuments sculptés, sous vos yeux, ce qui a disparu à Alexandrie. Donc ça, c'est ça qui fait le caractère très exceptionnel du site, en fait.
Mais alors, ça, c'est la partie du site qui est un peu enclavée, je dirais. Arriver dans le site est toute une expérience, hein, passer par ces passages un peu sinueux. Et puis, il y a ce dont vous venez de nous parler, Laurent Tolbecq. Mais Petra, c'est plus que ça.
Alors, Petra, c'est un centre-ville, bien sûr, avec des infrastructures urbaines classiques. Bon, après l'époque nabatéenne, arrivent les Romains, donc voilà, vous avez une rue à colonnades, des thermes, effectivement, des temples, toutes sortes d'infrastructures, un théâtre, des infrastructures nécessaires à la vie publique.
Attendez, parce que ce que vous voulez dire, c'est que quand la civilisation nabatéenne se termine, elle est intégrée finalement dans la civilisation romaine et Petra continue à vivre.
Absolument. Petra devient, alors de capitale d'un royaume hellénistique, elle devient une ville de province, entre guillemets, mais avec tout l'appareil urbain de la ville de province romaine. Et ce, jusqu'à un gros tremblement de terre en 363 qui détruit quand même très, 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 très violemment les infrastructures. Alors, vous avez donc ce centre urbain avec toutes ses constructions, mais surtout, dès lors que la ville est construite dans un bassin qui est entouré de montagnes, le centre-ville est à 880 mètres d'altitude et les montagnes montent jusqu'à 1100, 1300 mètres d'altitude. Dès lors que le centre est entouré de montagnes, eh bien, ces montagnes sont occupées par des populations qui construisent des espèces de petites maisons troglodytiques. C'est-à-dire qu'on creuse dans la roche et puis on place quelques pièces devant en façade, on ferme. Alors si vous avez peut-être des images au Nouveau-Mexique, des choses de assez, assez proches en fait en termes de construction. Et donc diverses tribus, parce que la population est homogène certes, mais il y a des groupements différenciés à l'intérieur de la population. Diverses tribus se distribuent dans l'espace, dans diverses banlieues, dans lesquelles on va retrouver de l'habitat, dans lesquels on va retrouver des cimetières, les cimetières associés à ces tribus, et dans lesquels on va retrouver des sanctuaires.
Des quartiers, en quelque sorte.
Des quartiers, absolument. Donc vous avez au moins 4 ou 5 quartiers différents autour de ce centre urbain qui est, lui, très fortement occupé par la famille royale ou par les investisseurs caravaniers. Quoi. Les gens les plus riches sont clairement au centre, en fait.
Oui, voilà. Alors, vous le dites, hein, une ville, un centre-ville, un cœur urbain, et puis évidemment des quartiers périphériques, et tout ça, c'est, vous voulez l'explorer, en fait, des missions sur le terrain. Vous en avez fait, j'imagine, un paquet déjà, Laurent Tolbeck, vous les avez dénombrés.
Non, mais depuis, enfin, on travaille là depuis, moi depuis 2002 et on est régulièrement là 2 fois par an, donc ouais. Oui, ça fait quand même...
Vous connaissez le coin. Ouais. Et donc, vous explorez entre autres des vestiges des sanctuaires nabatéens qui se trouvent alors, hein, comme vous le disiez il y a un instant, perchés au sommet des montagnes de Petra. Vous vous intéressez aux espaces religieux et aux rituels qui entourent des bétiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameuses bétiles?
Donc c'est une culture dans laquelle on représente la divinité, ou les divinités plutôt, sous forme de pierres. Dans le domaine nomade, on va ramasser quelques pierres et puis on va s'arrêter, on va les réunir et opérer quelques rituels qui sont des libations, des choses de cette nature, des sacrifices. Et puis dans un domaine sédentaire, on garde cette pratique d'honorer en quelque sorte des pierres. Voilà, les archéologues les appellent des bétiles, d'après un mot grec, parce que c'est une réalité qui existe dans plusieurs cultures, y compris dans la Grèce archaïque. Et donc on honore ces pierres, et donc ce qui nous intéressait, c'est de voir comme archéologues ce qui restait comme infrastructure qui permettait de comprendre comment on honorait ces dieux à travers ces pierres. Donc nos 2-3 missions les plus récentes ont eu pour objet d'inventorier d'abord ces plateformes sur lesquelles on place ces idoles. Et puis, dès lors que ce sont des plateformes rupestres, eh bien, essayer de restituer architecturalement les parties supérieures. Et ça permettait de comprendre effectivement qu'il existait par exemple des bassins qui permettaient de récupérer des liquides sur lesquels, qui étaient posés, si vous voulez, ou offerts à la divinité. Donc en dessous du bétil, par exemple. Donc voilà, on a fait un travail. Alors, on a quelques textes, ils sont plutôt rares. Il y a un évêque du 4e siècle qui, évidemment, s'oppose à tous ces rites païens et donc qui, un peu par hasard, les décrit. Et donc on nous décrit, par exemple, une circumambulation. Ça veut dire qu'on tourne, 7 fois. Ah, ben ça nous fait penser à la Mecque, évidemment, 7 fois autour des bétiles. Alors, à la Mecque, il y a aussi un culte bétilique. Hein. On est là dans des continuités extrêmement intéressantes. Donc, s'intéresser aux Nabatéens, c'est s'intéresser aussi aux origines, en quelque sorte, de ce qui se passe au 6e, 7e siècle, 8e siècle, en péninsule arabique.
Mais vous disiez, effectivement, autour de ces bétiles, il y a des cérémonies qui se déroulent. Avec des sacrifices peut-être ?
Alors,
ces
oui,
cultes païens, comme vous disiez.
Oui, absolument. Donc il y a une logique sacrificielle. On sait par... on a diverses sources, y compris ethno-archéologiques du 19e, qui permettent de comprendre qu'on va oindre, c'est-à-dire qu'on va frotter du sang d'un animal sacrifié sur la pierre, par exemple dans le sud de la Syrie. Donc voilà, on va oindre et la pierre, et puis par ailleurs, on va lui offrir... un certain nombre de liquides, en fait. Hein. Mais là, c'est plutôt sur un petit présentoir devant, une petite table à offrande, un peu comme quelque chose qu'on trouve plus régulièrement au Yémen, par exemple, c'est-à-dire en Arabie du Sud, que dans nos régions.
Ouais. Et ces bétiles, elles ont quelle taille, par exemple ?
Alors, c'est pas bien grand, puisque à l'origine, c'est une pierre ramassée au sol, tout simplement. Donc, ça fait 40 cm, 60 cm de haut. C'est vraiment pas grand.
Des monolithites.
Loin de là.
Des monolithes, celtiques.
Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans ces formats-là. Non. Alors, par ailleurs, ils sont généralement amovibles. C'est quelque chose qu'on transporte et qu'on va mettre éventuellement aussi sur une niche ou dans une niche. Hein, comme il y a des centaines de niches, en fait, sur des cheminements dans ces banlieues, entre guillemets, à l'intérieur de Petra, vous avez des centaines de niches qui accueillaient des bétiles. Un petit peu comme si vous vous promenez, je ne sais pas, dans une ville méditerranéenne, à Naples ou ailleurs, en Sicile, vous aurez des petites chapelles partout. Mais c'est le même genre de présence, en fait, de
la divinité. Mais c'est jamais sculpté.
Si, alors donc certains sont amovibles, et puis d'autres sont rupestres, c'est-à-dire représentés dans la roche comme telle, et ils ne bougeront jamais.
Oui, mais je veux dire, le bétil en tant que tel, la pierre, elle n'est jamais sculptée en représentation d'une effigie ou quelque chose.
Alors, c'est rarissime, mais ça arrive. C'est-à-dire que donc la pratique générale, c'est une représentation d'une divinité sous forme de pierre, donc an iconique, pas une image.
C'est ça.
Mais effectivement, parfois, cette image va porter des traits. Des traits, deux yeux, un nez, une bouche. Donc cette pierre devient anthropomorphe en quelque sorte. Et lorsqu'on a des inscriptions, c'est assez intéressant, lorsqu'on a des inscriptions associées à ces pierres avec des pierres aux yeux, si vous voulez, ou des pierres à visage, eh bien ce sont systématiquement des divinités féminines. Oui. Donc c'est une espèce d'attribut de la femme, les yeux, les beaux yeux, les grands yeux, etc.
Votre dernière mission vous a mené une fois de plus du côté de Petra, avec entre autres un partenariat avec l'Université de Lausanne. Et puis vous avez développé une table ronde récemment, ça c'était en avril 2024 à Lausanne, qui s'intitulait « Entre ancêtres et divinités, étude des formes, des contextes d'apparition et d'utilisation des pierres dressées au Proche et Moyen-Orient, du néolithique à l'apparition de l'islam ». C'est intéressant, ça, et vous allez nous en dire peut-être un peu plus, Laurent Tolbecq, dans un instant. Mais par rapport à ce que vous disiez il y a un instant sur le fait d'étudier ces civilisations jusqu'à la période de l'islam et de voir que finalement, il y a quand même une sorte de continuum.
Oui, donc l'idée principale en réunissant des chercheurs qui travaillent sur une même époque, sur une même région, mais pour des époques différentes, c'est précisément de lire d'éventuelles continuités, tout en sachant qu'il faut faire très 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 attention et que des choses qui se ressemblent sont peut-être utilisées dans des contextes extrêmement différents. Et donc, par exemple, s'agissant de pierres avec des yeux, entre guillemets, y a un bon parallèle, c'est en Arabie méridionale, mais là, ce sont des pierres qui sont exclusivement des stèles funéraires. Donc il y a deux pratiques différentes et elles n'ont aucun lien. Mmh. L'objet paraît très très proche, mais en fait il n'y a aucun lien entre ces deux ensembles en quelque sorte. Voilà.
Mais en fait, est-ce qu'on a sous la main aussi à ces époques-là? Et je veux dire, les pierres, elles restent. J'imagine qu'il y avait sans doute d'autres éléments qui ont peut-être disparu avec le temps.
Oui, absolument. Et donc le travail de l'archéologue, c'est effectivement de faire parler des traces, donc d'aller au-delà de ce qu'il voit et de restituer des contextes. On a eu des communications tout à fait passionnantes. On se rend compte qu'il y a déjà des incarnations de divinités protectrices, en fait, auprès de populations de chasseurs-cueilleurs, vraiment transition entre vraiment l'extrême fin du paléolithique.
Donc,
des photos, des ex-votos.
Non, des photos.
Non, un ex-voto. Alors, un ex-voto, c'est quelque chose qu'on offre à la divinité pour la remercier d'avoir reçu quelque chose. Ça va?
Oui.
On a exprimé un vœu, puis on lui, c'est une forme de reconnaissance. Donc, c'est pas ça. C'était plutôt des divinités protectrices.
D'accord.
D'un lieu qui était fondamental pour ces groupes, puisque c'était un lieu qui concentrait en fait les résultats de chasse. Donc d'une occupation du territoire assez vaste. Mmh. Et voilà, donc l'objectif, c'était de réunir des archéologues et aussi des philologues. Donc on a un spécialiste de la Bible, parce que la Bible mentionne ce type de pierre, et une spécialiste du Coran, qui a aussi évoqué les rites béthyliques à l'époque pré-islamique. Et donc voilà, nous mettre ensemble et voir ce qui pouvait relever de logique de continuité, ou bien éclairer en fait d'un point de vue différent des choses qu'on croit connaître. Voilà.
Et le résultat a été prometteur ?
Oui, le résultat est très très bon. Donc, on a mis en ligne toutes les communications et là, on prépare évidemment les actes du colloque. Mais c'est surtout en termes de mise en garde, en fait. Je pense que ça met en garde le chercheur. Dès lors qu'il faut
mise en garde de quoi sur fausses pistes
oui,
potentielles.
Oui, de fausses comparaisons, si vous voulez.
Comparaison n'est pas raison.
et c'est pas parce que les choses se ressemblent qu'elles ont un lien en réalité. Voilà. En l'occurrence, entre les contextes funéraires et les contextes religieux, on n'a pas trouvé de lien possible. Alors que c'était le point de départ. On s'est dit non, il y a des continuités, il y a des logiques là. En fait, pour le moment, on n'en a pas trouvé du tout.
Pour le moment, ça pourrait se contredire ultérieurement.
Absolument.
On verra bien. Mais on a souvent l'image de l'archéologue, image un peu archétypale de l'archéologue avec sa pelle, son seau et son pinceau. On est loin de là aujourd'hui, même si c'est encore des réalités qui peuvent exister. Vous utilisez pas mal de technologies de pointe. Vous l'avez fait lors de cette dernière mission, entre autres avec de la photogrammétrie. Vous pouvez nous dire ce que c'est?
Oui, alors c'est une technique qui est absolument... qui est utilisé maintenant sur tous les chantiers archéologiques. Il s'agit simplement de faire des photographies et puis de passer par un programme tout à fait banal qui, de la photographie, réunit toutes les photographies pour vous faire un modèle 3D en trois dimensions de ce que vous avez fouillé, de ce que vous êtes en train de fouiller. Donc, le travail de l'archéologue, c'est enregistrer. Il faut enregistrer ce qu'on est en train de fouiller pour les générations futures parce que, malheureusement, c'est une ressource non renouvelable, l'archéologie. C'est-à-dire qu'on touche le sol et on détruit les couches archéologiques. Donc, il est fondamental d'enregistrer le mieux possible. Donc la photogrammétrie, c'est simplement un outil qui est maintenant utilisé depuis 5 ou 10 ans, assez systématique sur les chantiers pour enregistrer en 3 dimensions l'évolution du chantier ou les artefacts qui sont sortis de la fouille, par exemple. Et donc ça nous permet d'aller un petit peu plus vite dans l'enregistrement, ce qui n'est qu'un point de départ, parce qu'après, il faut relire, c'est-à-dire regarder à nouveau le site sur base de cette photographie, en ayant le site sous les yeux, pour le faire parler, évidemment. Mais voilà, c'est un...
Pour comprendre, pour décrypter.
Pour comprendre, oui. Par exemple, vous avez une image sous les yeux, mais en fait, c'est 2000 ans d'histoire sous les yeux. Mmh. Donc, il y a des traces de réorientation, de réoccupation, de transformation, en particulier sur du rupestre, qui peuvent être lus. Donc voilà, on travaille.
Qu'est-ce qui peut être lu sur du rupestre sur,
Alors, sur le rupestre, c'est un chicot, donc c'est l'ossature et sur laquelle sont venus se surimposer des murs, par exemple. Mais ces murs ont été détruits ou l'espace a été transformé. Donc, bon, par exemple, le principal haut lieu, le principal sanctuaire de Petra, il a été découvert dans les années 1880. Il y a un croquis qui était publié en 1908, mais jusque-là, il n'y a pas eu de relevé sérieux jusqu'à notre passage il y a un an. Un bon relevé nous a permis de voir qu'il y avait au moins deux phases radicalement différentes dans ce haut lieu. Donc ce qui avait été lu jusque-là comme une phase homogène doit être décomposé. Déconstruit en quelque sorte. Alors, le problème du rupestre, c'est qu'il n'y a pas de stratigraphie, il n'y a pas de terre, donc on n'a pas d'objets qui nous permettent de dater ces phases. Mais au moins, on a deux phases, et on ne le savait pas avant. Donc voilà, on peut décomposer en réalité la compréhension ou l'image.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme découverte récente sur le site de Petra, je ne sais pas, avec vos nouvelles technologies ou bien avec de l'observation plus classique? Vous parliez tout à l'heure de ces cultes avec les bétiles qui étaient loin de sang, vraisemblablement, d'un animal sacrifié. Mais comment est-ce que vous arrivez à détecter ça, effectivement, la présence de ce rite?
Alors pour ce rite-là, on n'a pas travaillé sur les dépôts, mais il est tout à fait possible, on a fait pour d'autres types d'objets, il est tout à fait possible de faire des analyses, des restes de corps gras en particulier. Donc pour vous donner un exemple de ce qui est possible...
Là ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, une fois qu'on est passé dessus, ça peut disparaître,
corps
gras et tout ça, donc il faut être extrêmement méticuleux.
Mais alors heureusement, une céramique antique peut garder en quelque sorte la trace des liquides qu'elle a contenus. Ouais. Et donc, ou bien de la cire qui a été enduite sur l'extérieur, par exemple, de la céramique, des choses de cette nature. Ouais. Donc, à l'état de trace, on peut analyser. Donc, pour vous donner un exemple, dans un sanctuaire, on a trouvé quantité de toutes petites fioles qui sont connues pour être des fioles à parfum. Et on se dit, dans cette salle de banquet, pourquoi ont-ils tant de fioles à parfum? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et on a été surpris de voir que c'était, en fait, et on ne comprend toujours pas pourquoi, mais que c'était des résidus de vin, en fait. Donc, voilà, ces petites fioles ont été utilisées pour verser du vin, ou pour récupérer du vin, ou pour venir avec du vin, ou pour repartir avec du vin. Bon, mais en tout cas, ce n'était pas du parfum, en l'occurrence.
D'accord.
Un autre exemple intéressant...
C'était un contenant, mais qui servait à transporter autre chose.
C'est-à-dire que cette forme-là, dans l'esprit de l'archéologue, elle est associée à des parfums, et en fait, la chimie nous montre que ce ne sont pas des parfums. Mmh. Voilà. Mmh. Et un autre exemple du même type, sur la même salle de banquet, des dizaines de lampes. Alors on dit des lampes, bah oui, c'est des lampes à huile, évidemment. Alors oui, mais de l'huile de quoi ? De l'huile d'olive, oui, on n'est pas loin de la Méditerranée, c'est de l'huile d'olive. Donc on a regardé, et c'était de l'huile pure de sésame. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils n'utilisaient pas l'huile d'olive, ils utilisaient une huile, alors était-elle moins chère pour les lampes, ça va ? Et on a des descriptions de la ville, Strabon à nouveau, il nous dit, les Nabatéens n'utilisaient pas d'huile, ils utilisaient du sésame. On s'est toujours dit, quand on a lu le texte, c'est un poncif. On dit que l'Orient, c'est du sésame et la Méditerranée, c'est de l'huile. Eh ben non, effectivement, c'était du sésame. Donc voilà, on peut aller un petit peu plus loin, même grâce aux études de corps gras, par exemple.
Vous citez Strabon, c'est ça?
Oui, Strabon, oui.
Strabon,
qui est... Strabon. Alors, Strabon, c'est un auteur, il écrit en grec, mais il est très très proche d'Auguste, et donc on est au tournant de l'ère. Hein. Et c'est quelqu'un, alors pour Pétra, c'est très intéressant. Donc il a écrit une histoire du monde.
Le premier siècle.
À la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Okay. Il a écrit une histoire, et puis le début, c'est jusque Tibère, donc le début du premier siècle de notre ère, il révise son texte. Il a écrit une histoire qui est perdue, et adossée à son histoire, il a écrit une géographie qui est complètement préservée, elle. Donc on a une description du monde antique à l'époque d'Auguste par Strabon, quelqu'un qui est très 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 proche d'Auguste. Alors pour Pétra, il nous dit « Ah, mais j'ai un témoignage de première main, un monsieur, un de mes amis qui est passé par là. » Alors il s'appelle Athénodore, et donc on peut essayer de savoir qui était ce personnage. C'était quelqu'un qui était un précepteur d'Auguste, donc quelqu'un qui était très très proche du pouvoir lui aussi. Et en réalité, on peut même dater le passage d'Athénodore, donc c'est 30 avant Jésus-Christ, 31-30 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est tout à fait précieux. Donc on a un texte avec un témoin et dont on peut dater le passage. Voilà, donc pour donner un exemple.
Voilà, ça vous permet de recouper vos sources, le terrain et puis la littérature. La collaboration internationale, on en a parlé avec l'Université de Lausanne, entre autres, mais pas seulement, je pense. Vous êtes aussi dirigez aussi une mission française sur le site de Pétra. C'est important. Hein. Je rappelle que vous êtes associé, bien sûr, à l'ULB avec le CREA Patrimoine, CREA Patrimoine pour Centre de Recherche en Archéologie et Patrimoine. Comment ça se passe, les relations? Parce qu'on parle de Pétra, qui se situe en Jordanie, les relations avec les autorités jordaniennes ou les équipes d'archéologues là-bas?
Alors, la majorité des équipes sont maintenant des équipes jordano quelque chose, mais il reste quelques équipes, si vous voulez, qui traditionnellement travaillent moins en coopération. Et donc c'est le cas de la mission française, qui est une mission, c'est pas une mission franco-jordanienne, à Pétra en particulier. Mais bon, de mon côté, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec une petite université locale à Wadi Moussaï, donc on a eu des étudiants jordaniens sur nos chantiers, bien des articles écrits en collaboration avec deux collègues locaux. Donc par exemple, le dernier projet qu'on a eu ensemble, c'était un sanctuaire de sources sur les hauteurs de Pétra, puisque l'eau descend à Pétra, de sources qui sont situées plus haut, en hauteur. Et puis, si on se rapproche des sources, on se rend compte qu'il peut y avoir des sanctuaires. Donc, comme la petite université n'est pas loin, en l'occurrence, de ce site, on dit, c'est un bon chantier école. Donc, on a lancé un projet de coopération avec cette université. Donc, il y a des missions américaines, il y a des missions allemandes, Berlin est encore très présent. Mais il est vrai qu'il y a quand même de moins en moins d'équipes qui travaillent à Pétra, et pourtant, Dieu sait s'il y a du travail. C'est un site qui, en fait, est en danger à cause du changement climatique, d'une part, parce que les pluies sont plus abondantes et ce sont les pluies torrentielles. Et donc, on est en montagne, donc l'érosion est épouvantable. Donc, on voit des murs apparaître vraiment sur 2 ans. On voit des murs qu'on ne voyait pas avant. Et puis, par ailleurs, le tourisme, il y a vraiment un surtourisme. Mmh. Enfin, jusqu'aux événements à Gaza, il y a eu un surtourisme qui abîmait vraiment le site. Donc, la principale préoccupation des autorités, elle est moins l'archéologie que la gestion des flux, la gestion du site, si vous voulez. Donc, voilà.
Et précisément, aujourd'hui, dans le contexte international qu'on connaît, aller faire des fouilles là-bas, c'est rendu plus difficile ou bien ça n'a pas d'impact direct?
Alors si, ça a un impact, bien sûr. D'abord, on se pose toujours la question de savoir si c'est raisonnable d'y aller. Bon, on a ou on n'a pas des autorisations de mission, tout simplement. Et puis, mais je pense que dès lors que, précisément, il y a beaucoup moins de tourisme,
ça se marque, sur le terrain.
C'est tout à fait net. Hein, ouais. C'est incroyable. On est peut-être à 10% de ce qu'on a d'habitude. Mais donc, à l'inverse, une mission archéologique, elle amène du travail, en fait, puisque évidemment, il y a des gens du village voisin qui viennent travailler avec nous, et chaque année, et comme on est là sur le long terme, maintenant on connaît leurs propres enfants, et on a leurs enfants, etc. Il y a des ouvriers spécialisés en restauration, par exemple. Donc, pas dire qu'ils attendent notre venue, mais dès lors qu'il n'y a plus de touristes, oui, je veux dire, ça a vraiment un impact important. Ouais.
Alors ça, c'est une situation qu'on espère provisoire, mais il n'en demeure pas moins que c'est un savant équilibre à trouver, j'imagine, entre la possibilité de donner aux gens qui sont intéressés, des amateurs intéressés par ces civilisations, l'opportunité d'aller sur le terrain, et puis la recherche archéologique qui doit continuer à suivre son cours de la manière la plus minutieuse possible.
Il faut adapter ses objectifs au site. Et dès lors que le site, enfin, me paraît en tout cas en danger, bon, paraît à la communauté scientifique en danger, en fait, je pense que ma priorité, c'est d'enregistrer avant que ça ne disparaisse. Ça paraît étrange parce qu'on se dit, ouais, c'est un site hyper célèbre, il ne doit pas trop souffrir par rapport à d'autres. On n'est pas dans une fouille de sauvetage, a priori. En réalité, si. Il faut travailler vite. Avoir des objectifs clairs. Donc, par exemple, ce sanctuaire de source, il est situé à côté d'une route, donc il est gravement pillé. Et donc, ça m'a paru être une priorité, y compris d'amener des étudiants jordaniens sur ce site pour qu'ils le prennent en charge, en quelque sorte, et qu'ils s'opposent à ce pillage. Alors, avec des moyens faibles, mais au moins intellectuellement, quoi, qui comprennent l'intérêt d'un enregistrement scientifique. Donc voilà, je pense qu'il faut adapter nos projets de recherche aux réalités sociopolitiques, économiques du coin, bien sûr.
Merci beaucoup Laurent Tolbecq. Je rappelle que vous êtes donc archéologue spécialisé dans la civilisation nabatéenne, qu'on connaît un tout petit peu mieux maintenant grâce à votre expérience et le fait de nous l'avoir partagé. Vous êtes attaché au CREA Patrimoine, le centre de recherche en archéologie et patrimoine de l'Université Libre de Bruxelles. Vous disiez que vous faites traditionnellement deux missions en Jordanie par an, une au printemps, une autre
à l'automne, donc maintenant, le mois prochain, enfin, au mois d'octobre, on est sur les starting blocks.
Donc vous partez en octobre.
Oui, c'est bon.
Eh bien, bon vent à vous, et puis vous nous ramènerez peut-être encore des nouvelles.
Mais je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir. Voilà, c'était Laurent Tolbecq qui était notre invité aujourd'hui. Il est archéologue spécialisé dans la civilisation nabatéenne. Il a rejoint l'Université Libre de Bruxelles en 2007 et il a apporté avec lui une longue expérience de terrain acquise à Petra. Donc Petra, ce site inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y travaille depuis 2002. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.